L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Quand j'avais 4 ans, mon père a acheté la Xbox, la première, celle de 2001. Nous avons beaucoup joué sur cette console à toutes sortes de jeux jusqu'à ce qu'il décède lorsque j'avais 6 ans. Je n'ai pas pu toucher à la console pendant 10 ans, mais un jour, je l'ai fait et j'ai remarqué quelque chose. Nous avions l'habitude de jouer à Rally Sports Challenge, un jeu de course de voiture qui nous plaisait beaucoup à l'époque. En bidouillant un peu, j'ai trouvé un fantôme, littéralement. Vous savez, lorsque vous faites une course, le meilleur tour est enregistré sous la forme d'une voiture fantôme. Vous avez deviné, le fantôme de mon père tournait encore sur la piste. Alors j'ai joué jusqu'à être presque capable de le battre. Et un jour, je l'ai rattrapé et doublé avant de m'arrêter devant la ligne d'arrivée pour ne pas effacer le record et pouvoir continuer à jouer contre le fantôme de mon père. Tiré d'un commentaire de la vidéo « Can video games be a spiritual experience ?» de la chaîne YouTube PBS Game Show, cette histoire fait prendre conscience que des nouvelles technologies sont implantées au point de donner une nouvelle dimension à quelque chose que chaque personne a vécu depuis que l'humanité existe, le deuil. Un étonnant sujet que nous abordons ce soir dans l'Atome de Savoir avec nos deux invités. Bonsoir Hélène Bourdelois.
Bonsoir Gaspard.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord et vous avez coécrit « L'impossible patrimoine numérique » avec Christine Chevret-Castellani, paru chez Le Bordelot en 2018 et qui aborde la question des traces numériques et numérisées post-mortem. Vous êtes avec Laurence Pic, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes psychothérapeute clinicienne et vice-présidente de la fédération Vivre son deuil. Ensemble, nous allons explorer les nouvelles symboliques du deuil jusqu'à 21h. Et puis tout à l'heure, bon, nos auditeurs ont l'habitude, nous prendrons le pouls de la sphère scientifique avec Vadim. Et en fin d'émission, vous savez comment ça se passe, Simon nous parlera de philosophie des sciences. Mais pour commencer, mesdames, on va s'arrêter quelques minutes sur ce que sont la mort et le deuil, parce que le sujet de l'émission de ce soir nous a fait beaucoup réfléchir dans l'équipe. Bonsoir Jade.
Bonsoir Gaspard.
Alors, le traitement pour la vie éternelle n'a pas encore été trouvé, à moins que Vadim nous ait une grande nouvelle à nous annoncer dans l'actu scientifique. La mort fait partie de la vie, donc de facto, le deuil aussi. Et pour autant, peut-on comparer le fait de mourir aujourd'hui avec ce qui se passait 30 ans auparavant ?
Alors, c'est une très bonne question, Gaspard, mais avant, on devrait peut-être revenir sur ce qu'est le deuil. Le deuil est défini sur le site mieuxtraverserledeuil.fr, initié par le psychiatre Christophe Fauré, comme la rupture émotionnelle du lien avec l'être aimé. Le dictionnaire Larousse, quant à lui, le définit comme l'affliction éprouvée à la suite du décès de quelqu'un. Une chose est sûre, le mot deuil nous évoque à tous le chagrin et une profonde tristesse. Et si aucun deuil ne ressemble à un autre, il est possible de relever plusieurs étapes du processus de cicatrisation du deuil. La psychiatre Elisabeth Kübler-Ross avait théorisé dans les années 60 cinq phases du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Certains considèrent qu'il faut ajouter à ces cinq phases celle de la culpabilité et de la douleur et celle de la reconstruction. Bien sûr, d'autres classifications des étapes du deuil existent.
Bien sûr, et ces différentes étapes sont vécues différemment par tout un chacun, mais on peut se demander si les nouvelles technologies ne les impacteraient pas.
Effectivement, Gaspard, le numérique a significativement bouleversé notre rapport à la mort, ne serait-ce que parce que nous sommes toujours vivants sur Internet, et ce, même après notre mort. Même si le droit à l'oubli existe, le mettre en place semble complexe et lourd d'un point de vue administratif. Des entreprises se sont spécialisées dans cela, comme Iproctego, dont une des missions est de gérer à votre place les démarches administratives liées au deuil.
Et justement, certains réseaux sociaux ont aussi pris cela en compte. Depuis 2015, Facebook a lancé une fonctionnalité appelée Legacy Contact, qui permet de transformer le compte d'un utilisateur en compte commémoratif.
Gaspard, là, tu mets le doigt sur un point important. Internet et le numérique aident énormément les personnes qui subissent un deuil à le vivre. De nombreuses pratiques se sont développées sur Internet après la mort de l'individu. Comme tu l'as mentionné, Facebook a mis en place une possibilité pour les proches de poster des messages et des hommages sur la page Facebook d'une personne décédée. De nombreuses autres plateformes permettent de faire des commémorations en ligne, comme InMemory. Internet est un formidable outil au service du travail de mémoire. Christophe Fauré souligne que le numérique permet de mettre à distance cette peur des endeuillés de voir le défunt être oublié. De plus, cela permet dans le même temps de parler de lui, une étape essentielle pour le processus de deuil. Internet offre la possibilité de créer une sorte de cimetière numérique dans lequel on se remémore la personne, un peu comme une visite dans un cimetière matériel.
Et au-delà d'une simple conservation du souvenir de la personne, ces pages commémoratives permettent aussi d'apporter du soutien aux proches, de pleurer ensemble la perte d'un être cher, où que l'on se trouve.
Tu as tout à fait raison. Et j'irai même plus loin. Outre le fait d'être soutenu par des proches grâce aux nouvelles technologies de communication, ce qui avant se faisait au travers de lettres et de cartes, les personnes endeuillées pourront trouver du réconfort auprès d'autres acteurs. De nombreuses plateformes ont été créées sur Internet pour aider à traverser un deuil. C'est le cas par exemple du site que j'ai cité au début, mieuxtraverserledeuil.fr. Plus que des professionnels, le partage d'expériences avec des personnes qui vivent la même situation peut énormément aider les personnes qui souffrent de la perte d'un proche. C'est ce qu'Annick Ernaux appelle l'écho-résonant. La personne endeuillée va trouver sur Internet des personnes qui vivent la même souffrance et qui pourront la comprendre, ce que ses proches auront du mal à faire. Elle pourra exprimer ses doutes et son décalage par rapport à la vie qui continue, avec d'autres qui pourront plus facilement compatir. Christophe Fauré note que le numérique est un outil formidable pour cela. Il permet une connexion 24 heures sur 24 et une réponse instantanée. L'endeuillé pourra se connecter à 2 heures du matin, lorsqu'il sera seul, et trouvera un soutien émotionnel instantané, au travers des témoignages partagés. Il pourra lui-même exprimer ses émotions et sa tristesse, derrière l'intimité que lui offre son écran. Il se confiera plus, et de façon plus profonde, en théorie.
Alors là, tu nous montres une vision très très belle d'Internet et des nouvelles technologies. Et pourtant, moi, je peux pas m'empêcher de penser à l'épisode Be Right Back de Black Mirror, dans lequel une femme qui a perdu son petit ami décide de le recréer numériquement à l'aide d'une intelligence artificielle.
Alors oui, comme dans tous les domaines, Internet est à la fois un outil formidable, mais il contient son lot de dérives. Ce que tu viens de me dire fait écho à deux phénomènes, selon moi. Aux États-Unis, certaines startups, comme Dead Social, permettent d'enregistrer des messages, des vidéos et des photos, et j'en passe, de son vivant pour qu'il soit envoyé après le décès à un proche. L'autre phénomène est celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour simuler des conversations post-mortem avec le défunt. L'IA va détecter des tics de langage ou des habitudes pour créer une cartographie du défunt et discuter de la même façon que lui avec un de ses proches en vie. C'est l'objet de la start-up Replica créée en 2016. Toutefois, ces offres sont très critiquées parce qu'elles pourraient retarder le processus de guérison. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des défunts ou même leur parler, au contraire. Le problème de ces technologies est qu'elles font vivre éternellement la personne décédée. Lorsqu'on parle à un défunt, ce qui peut totalement aider lors du processus de deuil, seul le silence nous répondra, puisque la personne n'est plus là. C'est justement ce silence qui va permettre de prendre conscience de l'absence de la personne et de passer la phase de déni. La technologie peut donc être d'une grande aide, mais contient certains effets pervers que nos invités vous expliqueront mieux que moi.
Vous écoutez l'Atome de Savoir et ce soir, nous recevons Hélène Bourdelois, sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris Nord et Laurence Pic, psychothérapeute clinicienne, vice-présidente de la Fédération Européenne Vivre Son Deuil. Merci à toutes les deux d'être venues ce soir sur Radio Campus Paris. Et une première question, je commence par vous, Hélène Bourdelois. Peut-on préparer sa mort par rapport à Internet? Est-ce qu'il y a un testament concernant sa vie numérique?
Alors, la question de la préparation de la mort, effectivement, elle a été vraiment de plus en plus interrogée avec l'évolution du numérique et de plus en plus de personnes sont conscientes aujourd'hui de cette problématique. Donc, de plus en plus facilement, on pense à donner nos mots de passe à des proches, les sociétés le recommandent. Ça s'est beaucoup passé à l'époque hein, pour des chefs d'entreprise, etc. Et les juridictions ont beaucoup évolué sur le sujet puisque depuis la loi Le Maire hein, du 7 octobre 2016, dite loi sur une République numérique, et puis ensuite le pacte européen qui ont bien sûr fait évoluer la question sur la transmission des données. Donc la question de la jurisprudence évolue aussi sur le sujet parce que la question de l'héritage de ces données se pose fatalement quand ce sont des données qui sont finalement, on pourrait dire presque collectives, des données qui appartiennent à des réseaux comme Facebook et qui sont finalement la propriété des industries culturelles. Donc, je ne vais pas revenir sur ces longues affaires, mais je pense qu'on a toutes et tous entendu parler des affaires, notamment en Allemagne, d'une jeune fille qui s'était suicidée et dont les parents voulaient avoir accès au compte Facebook de la jeune fille pour essayer de comprendre son acte. Et la cour avait donné initialement raison aux parents. Après appel, elle a donné raison à Facebook en invoquant finalement le secret des correspondances à partir du moment où un réseau d'amis était impliqué hein, dans le réseau social. Donc effectivement, la question de cette transmission de données se pose de plus en plus. Mais plus précisément, on peut dire que de plus en plus de sociétés se sont emparées de cette question et proposent des bouquets de services pour finalement préparer cette transmission de données avant sa mort et de pouvoir la préparer. Et les notaires, effectivement, sensibilisent aussi les familles sur ces testaments concernant la destination de nos données qui sont considérées comme des biens au même titre que d'autres biens. Mais sachant que, effectivement, ça pose question quand il s'agit de données qui appartiennent à des industries culturelles. Et ça, les personnes n'en sont pas toujours conscientes que tout ce qui est posté sur Facebook n'est pas notre propriété.
Laurence Pic, pour vous, comment on peut préparer sa mort par rapport à Internet ?
Alors, en fait, c'est compliqué. Effectivement, comme le disait Hélène Bourdelot, il existe maintenant pléthore de sites qui vous accompagnent dans toutes vos démarches, au-delà du deuil, et même avant d'ailleurs. Et ça pose question par rapport à la réalité. Moi, il y a vraiment un décalage qui est en train de se créer et je reviendrai certainement beaucoup là-dessus. Le numérique, il faut bien se rendre compte que c'est du virtuel. Et le virtuel, à mon sens, ne remplacera jamais la réalité. C'est-à-dire que là, on va rentrer vraiment dans des pratiques, alors certes qui sont très pratiques pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas forcément le temps de faire certaines démarches qui sont pris par leur quotidien, etc., etc. Donc, on peut anticiper beaucoup de choses sur Internet maintenant. Mais moi, je mets un bémol par rapport à tout cela parce que la relation humaine, justement, est, à mon sens, en train de se déliter. Et il ne faut pas oublier que c'est avant tout quand même le nerf de la guerre quand il s'agit de relations humaines. Et même dans le deuil, même dans notre rapport à la mort, l'absence, effectivement, crée une souffrance. Mais pour autant, s'en remettre au numérique, s'en remettre au virtuel systématiquement, à mon avis, créer des biais et il faudra être très vigilant par rapport à ça.
Et de plus en plus de gens choisissent une crémation aujourd'hui et de faire répandre leurs cendres quelque part, sur Terre. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit physique précis pour que les vivants viennent se recueillir sur une tombe pour ces gens-là. Est-ce que vous pensez que la pierre tombale de demain, Laurence Pic, ce sera sur Internet ?
Non, je n'y crois pas vraiment. Encore une fois, on est des êtres vivants, j'allais dire incarnés. Nous vivons quand même dans une réalité physique et certes, on peut avoir comme ça un lieu de mémoire virtuel, mais le lieu physique de recueillement est à mon sens très important. Même si, effectivement, par exemple, une personne ne va pas aller systématiquement tous les jours se recueillir sur la tombe de son défunt, pour autant, d'avoir un lieu physique identifié peut permettre peut-être davantage d'élaborer un deuil, j'allais dire, physique. Voilà.
Hélène Bourdelois, pour vous, la pierre tombale de demain, elle est sur le web ? Elle se trouve dans les nouvelles technologies ?
Alors, la pierre tombale n'est pas forcément sur le web. En revanche, il faut voir cela comme des pratiques complémentaires. C'est-à-dire que la crémation pose une vraie question en matière de question des traces. Dans le rapport à la mort, ce qui est important, c'est la traçabilité. Et quand il y a crémation, effectivement, pour certains proches, il n'y a plus de lieu forcément pour se recueillir. Alors, il ne faut pas oublier que la crémation, il y a aussi quand même des columbariums. Il y a aussi tout un tas de pratiques qui se font où les urnes sont dans des columbariums. Donc, ça existe. Il faut aussi se poser la question du rapport à cette évolution du virtuel. D'abord, pourquoi il y a eu au départ des musées, des mausolées virtuels, on peut dire, qui se sont créés. Ça a démarré dans les années 90, notamment, ça a été développé à Monaco. Pourquoi ? Parce que Monaco, la terre coûte très très cher. Et donc, c'est un entrepreneur qui a eu l'idée au départ de créer un cimetière virtuel. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Et puis, évidemment, ça s'est développé avec les nouvelles pratiques, avec l'invasion du numérique. Mais ce à quoi il faut penser, c'est le fait que le numérique est aussi pour moi un lieu pour se recueillir, mais c'est un lieu complémentaire. Donc effectivement, avec les nouvelles mobilités géographiques, les nouvelles mobilités familiales, les endeuillés n'ont pas forcément toutes et tous accès à une tombe qui est proche, à un lieu. Et donc, avoir un espace numérique, c'est aussi un espace de recueillement. Et je ne le poserai pas forcément à l'espace physique, parce que le virtuel, peut-être malheureusement, mais fait de plus en plus partie de toutes nos pratiques. Hein, quand on voit qu'on va se faire griffer des puces pour parfois pour soigner certaines maladies, etc. Donc pour moi, il y a des vraies hybridations et que du coup, on ne peut plus vraiment opposer le virtuel au réel. On est de plus en plus pris dedans. Et après, ça pose effectivement tout un tas de questions en matière de délocalisation, de changement de temporalité. Donc, pour finir sur cette question, on ne peut pas, et là je rejoins totalement Laurence, la question de la trace, de l'expérience, de la trace charnelle, elle est extrêmement prégnante, mais le numérique peut être tout à fait complémentaire, et ce qu'on voit aussi, c'est comment on propose d'autres types de services qui vont permettre de créer une trace qui sera plus palpable, si on peut le dire ainsi, par exemple, de planter un arbre. Donc, ça se fait beaucoup pour, justement pour des personnes hein, qui ont perdu des proches disparus. Les corps, pour une raison ou une autre, n'ont pas été rapatriés, les corps ont disparu. Et donc, de créer une forme de présence, de trace, par exemple, le fait de planter un arbre ou de mettre en œuvre notre action. Donc, je dirais plutôt qu'il y a une tombe virtuelle, on est dans des actions complémentaires, dans des pratiques complémentaires, dans des rituels complémentaires, mais le recueil en ligne peut être effectivement très important, et après ça ne veut pas dire qu'avant il n'existait pas d'autre manière de se recueillir parallèlement à la visite de la pierre tombale, qui pouvait être par exemple le fait d'écrire au mort, le fait de revêtir un vêtement du mort, etc., de toucher un objet du mort pour se rappeler le mort.
Alors, merci Hélène Bourdelois, parce qu'on comprend bien du coup qu'il y a une complémentarité entre le côté physique et le côté numérique du décès de la pierre tombale et du deuil. Malgré tout, chaque culture a associé des croyances à la mort. Et est-ce qu'on peut penser que la dématérialisation va désacraliser le deuil ?
Alors, si on oppose sacré et profane, dans un certain sens, on peut dire qu'il y a une forme de désacralisation. Pourquoi ? Parce que les morts ne sont plus dans des espaces dédiés comme ils l'étaient dans les cimetières. Alors, je pense particulièrement au cas de Facebook, évidemment, qui a vraiment posé des questions, contrairement à des espaces dédiés qui seraient des mémoriaux uniquement virtuels. Je ne sais pas, je pense, mais il y en a t'as d'autres, hein, au site web dans nos cœurs où il y a un espace souvenir, donc c'est un espace qui est uniquement dédié aux morts. Mais dans le cas de Facebook ou de sites web sociaux généralistes, on est vraiment dans des espaces hybrides, dans des réseaux sociaux généralistes. Et là, il peut y avoir donc effectivement une confrontation entre guillemets de valeurs entre des profils, des commentaires qui concernent, on va dire, le monde commun, le monde matérialiste, le monde ordinaire, et puis des pages concernent donc la question des morts. Donc là, il y a vraiment une vraie question qui se pose, et notamment ce qu'on a pu observer sur des comptes de réseaux sociaux, une espèce d'exubérance expiatoire. Il y a la monstration de la souffrance, il y a des exercices de style un peu hyperbolique, on va voir des postes un petit peu, où on met en scène la douleur, etc. Alors, cette mise en scène de la douleur dans le rapport au deuil, elle a toujours existé, hein. On pense aux veuves éplorées, aux pleureuses, etc., au rôle de pleureuse. Mais évidemment, avec les réseaux sociaux, ça prend une autre valeur, une autre dimension. Et ce qui ressortait beaucoup de mon enquête, des entretiens des personnes que j'ai interrogées, c'est vrai que ça leur posait une vraie question de voir, par exemple, parfois des réactions qui pour elles, qu'elles sentaient complètement déplacées. Et la question se pose aussi quand on parle de désacralisation, du fait effectivement de faire rentrer finalement le processus de ritualisation, le rapport à la mort, parfois dans le monde ordinaire. Vous êtes par exemple en train de consulter vos courriels et puis d'un seul coup, vous allez recevoir une notification Facebook, soit du mort parce que le compte n'a pas encore été désactivé, soit d'un endeuillé qui va poster un commentaire. Et donc, effectivement, tout ça, ça perturbe, on va dire, ça ébranle le rapport à la sacralisation.
Laurence Pic, pour vous, est-ce que le deuil est, est désacralisé par la dématérialisation ?
Alors, je rejoindrai ce que vient d'évoquer Hélène, parce que, alors, pour ma part, dans mon expérience, j'ai pu voir qu'effectivement, par exemple, pour la citer, la plateforme Mieux traverser le deuil a de son côté un forum, effectivement, où des personnes endeuillées peuvent venir échanger sur leurs défunts, et on se rend compte qu'effectivement, il y a une hyper réaction parfois des émotions par rapport aux souvenirs, par rapport à l'évocation des défunts, et on se rend compte que au niveau émotionnel, il y a plus cette dimension, cette pudeur, cette forme de retenue parfois. Alors certes, ça ne veut pas dire que il faut se retenir quand on a besoin de pleurer un défunt, mais là pour le coup sur ces forums, c'est parfois la foire d'empoigne où on voit des colères exacerbées, des certains internautes qui en répondent à d'autres et de manière complètement démesurée, avec donc des modératrices qui parfois peuvent être en difficulté pour gérer ce genre de forum. Donc voilà, on en arrive parfois à des situations un petit peu extrêmes, chose qu'on ne se permettrait pas, encore une fois, dans la réalité. Mais là, c'est du virtuel. Donc, on peut se permettre certaines choses et peu importe les conséquences, elles ne sont pas forcément immédiates et ça passe. Par rapport à la sacralisation, effectivement, le côté sacré est quelque chose d'important. En fait, la dimension sacrée est très personnelle. C'est quelque chose qui est intériorisé, c'est quelque chose qui est par rapport à nos valeurs personnelles aussi, alors par rapport à des cultures, bien sûr, qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et la dimension sacrée, elle est vraiment liée à nos croyances, quelque chose par rapport à la foi, à notre foi. On a envie de mettre notre défunt dans un lieu privilégié, on sacralise les choses, on a besoin de repères justement par rapport à nos fonctionnements quotidiens. On va consacrer justement un temps au recueillement, on va se permettre de faire une pause parce que c'est bien cela dont il s'agit en cas de rituel du deuil, c'est de créer une pause, de faire un sas entre le monde réel et puis le monde d'après. Et en fait, pour moi, la dimension sacrée reste intime, elle est vraiment personnelle et elle peut après rentrer dans la dimension collective par le rituel, mais c'est à chacun de s'approprier, à mon avis, cette dimension sacrée.
La dimension, alors sans être déterministe technique, parce qu'il faut faire quand même très attention, aujourd'hui on a toujours tendance à penser, le web change tout, révolutionne les pratiques de deuil, il n'y a plus de rites. Donc il faut voir vraiment le rôle de la technique. Donc, c'est important de voir qu'effectivement la technique contribue vraiment à structurer des usages, à les déplacer, à les ébranler, à les modifier. Mais pour autant, ce n'est pas la technique qui détermine tous les usages. Enfin, je veux dire, on a toujours correspondu avec les morts. Aujourd'hui, on le fait autrement, différemment ou de manière complémentaire. On a toujours eu certaines émotions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une puissance du dispositif, et c'est aussi ce que soulignait Laurence, par rapport au fait, cette monstration, par exemple, du chagrin parfois, cette surenchère, c'est vraiment un mot que je reprends, la notion surenchère d'une endeuillée, qui parlait notamment de la mort d'un ami, et elle était choquée de voir les réactions de certains qui, pour elle, en faisaient trop, en tout cas, manquaient de pudeur, mais notamment elle estimait qu'ils en faisaient trop parce que pour elle, elle considérait que ces personnes n'étaient pas forcément proches, elles n'étaient pas entre guillemets, en légitimité a priori pour émettre ce type de commentaires parce que selon elle, leur amitié n'était pas suffisamment intense pour justifier une telle douleur. qui était présenté. Et pourquoi faut parler du dispositif numérique ? Parce qu'effectivement, quand on le voit avec des dispositifs comme Facebook, on est dans des dispositifs où l'arithmétique est importante, c'est-à-dire le système de comptage, on a tant de nombres amis, tant de nombres de réactions, tout est compté. Et ce système mathématique, ce système de calcul, d'identité parfois qu'on appelle calculé, hein, ou contribue finalement à amplifier, à donner une résonance à toutes ces réactions. Donc, il faut vraiment effectivement voir le rôle du dispositif numérique, mais il faut penser, et c'est pour ça qu'il faut distinguer les dispositifs. Hein, Facebook, on n'est pas du tout dans le même dispositif qu'un dispositif qui serait un mémorial virtuel avec une modération. Donc, il faut vraiment avoir en tête hein, la sémiotique qu'il y a derrière, hein, le langage, des signes, comment le dispositif est construit pour comprendre ce qui se joue derrière.
Merci Hélène Bourdelois. Et justement, je voulais rebondir sur tous les systèmes des réseaux sociaux. Quand on est encore vivant et que tout le monde, on va tous mourir un jour, qu'est-ce qui existe pour anticiper notre décès et le deuil de nos proches sur les réseaux sociaux et Internet ?
Oui, effectivement. Donc, il existe une série de bouquets aujourd'hui. Hein, de plus en plus de sociétés funéraires les proposent. Donc, notamment des propositions de contrats obsèques qui vont permettre d'organiser ses propres obsèques. Il y a aussi des propositions, on en a parlé, qui permettent, par exemple, de gérer toute la destination, la transmission, la fermeture de ses comptes de données numériques après sa mort. Et puis, tous les sites, on le voit aujourd'hui, hein, tous les sites dans le domaine funéraire, déjà indiquent sur leur site, fournissent une série d'informations sur les procédures à effectuer pour fermer les comptes, etc., pour la mort.
Laurence Pic, est-ce que vous connaissez des applications ou des sites internet qui permettent d'anticiper le deuil de nos proches?
Alors, je ne me suis pas spécialement penchée sur la question. Je sais qu'il existe effectivement des plateformes d'assistance pour, comme disait Hélène, préparer les obsèques et faire un accompagnement. Je sais aussi qu'il existe dans ces bouquets différents aussi forums derrière pour pouvoir être accompagnés et que les endeuillés puissent trouver un peu de ressources, un peu d'informations, un peu de documentation, notamment sur les différentes étapes du deuil. Voilà, c'est quelque chose que l'on voit fleurir maintenant, alors que ça n'existait pas encore il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est actuellement tout ce que j'en connais en tout cas.
Effectivement, cette préparation d'anticiper, alors je dirais plutôt que le deuil, anticiper le deuil, on n'anticipe pas le deuil, hein, c'est plutôt les obsèques hein, qu'on va anticiper. Mmh. Qui est une chose effectivement de plus en plus fréquente, mais il faut voir quand même qu'elle s'inscrit vraiment dans plusieurs mouvements, c'est-à-dire d'abord une montée de l'immatériel dans les pratiques funéraires, qui est notamment liée à beaucoup de facteurs. D'abord, le recul de l'emprise ecclésiale, la médicalisation de la mort également, la baisse, bien sûr, donc de la pratique religieuse, hein, qui est, bien sûr, l'individualisation de la société. Et ça, c'est notamment lié, enfin, on le date à cette. Il y a une personnalisation des funérailles qu'on date souvent au moment du Vatican II en 72, qui a ouvert une brèche. Et on dit qu'il y a une montée en puissance hein, de la personnalisation du deuil, etc. Et que progressivement, la sphère de l'intime, elle prend le pas sur la sphère sociale. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir comment cette personnalisation du deuil, elle a évolué, puisque en fait, c'est devenu progressif, hein, le fait d'anticiper ces obsèques et finalement, avec le changement des mobilités familiales, etc., on sait à quel point c'est un véritable casse-tête hein, d'organiser des obsèques, notamment pour des familles qui sont à distance. Et donc, ce sont des pratiques qui se sont vraiment développées. Donc ça, il faut le voir dans une perspective sociétale pour comprendre comment l'organisation des funérailles, le fait de penser à l'organisation des funérailles, ça s'inscrit vraiment dans un ensemble de facteurs sociaux beaucoup plus large.
Alors, tout ça, c'est des choses qui sont très actuelles, qui sont nouvelles, mais très actuelles. Je propose maintenant qu'on aille dans le futur et qu'on se pose des questions sur des technologies naissantes, comme le deepfake, qui permet de créer donc des hologrammes à l'image de personnalités décédées. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'émission Hôtel du Temps, qui est une émission qui va normalement sortir cette année et qui sera animée par Thierry Ardisson, où il va s'entretenir avec des stars décédées, donc avec une intelligence artificielle qui reproduit le comportement d'une personnalité décédée. Alors pour commencer, la première émission, ce sera Dalida, apparemment. Est-ce que vous pensez que ces technologies auront une véritable utilité dans l'avenir, autre que le divertissement, Hélène Bourdelois ?
J'ai du mal vraiment à me prononcer sur l'avenir, mais en fait, quand on y pense, tout ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin, en tout cas ces espèces de rêves transhumanistes, qui sont finalement de vaincre, de dépasser le vivant, de transcender la mort physique, etc., de vaincre l'idée de finitude, finalement, elle a toujours traversé l'humanité, ça date des Grecs, etc. Et... Donc, je ne sais pas si ce sera qu'un jeu. Je ne suis malheureusement pas sûre que ce ne sera peut-être qu'un jeu et qu'un divertissement. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, alors c'est l'émission, mais on a parlé d'émission là, de Thierry Ardisson à venir. Mais il y a eu d'autres, des applications qui ont fait beaucoup parler d'elles, qui rejoignent cette idée de finalement de faire parler les morts. Il y avait un journaliste, James Vlahos, qui avait conçu un chatbot. Enfin, c'est une espèce un programme informatique en fait qu'il avait conçu de son vivant à partir du recueil des confidences de son père. Donc ça avait beaucoup fait parler dans la presse de faire parler les morts. Mais ce qui est plus connu, c'est l'affaire de Roman Mazurenko, qui est un Russe qui est décédé dans un accident en 2015, et en fait qu'un ami a fait revivre à travers une application qui a développé un avatar numérique qui porte son nom, on peut la trouver, et donc qui avait collecté un ensemble de messages. Et donc, voilà, c'est une application qui existe aujourd'hui. Alors, je ne sais pas du tout, j'en connais pas les usages. Il y a aussi, vous en avez parlé en début d'émission, mais la fameuse série Black Mirror, et notamment l'épisode Be Right Back en 2015, où avec un double numérique, on va les médias sociaux, la femme, elle va communiquer... avec celui qu'elle a perdu. Donc, il y a vraiment cette question de faire vivre les morts, aller poser d'un point de vue, effectivement, l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup, vous en avez parlé, de start-up américaines qui se lancent dans ce type de projet, qui se lancent dans les projets de préservation de cerveau en les numérisant. Donc là, on en est à des phases... expérimentale, mais ce désir d'immortalité, ce désir de faire revivre les morts, il a toujours existé, mais effectivement, il est en quelque sorte mis à exécution, on pourrait dire, avec l'intelligence artificielle.
Laurence Pic, pour vous, est-ce que le deepfake a un avenir ? Est-ce qu'il y a des écueils à éviter ?
Alors, pour être totalement franche et honnête avec vous, je suis assez perplexe par rapport à ce genre d'émission dont vous parliez. Si ça reste de l'ordre du ludique, effectivement, un divertissement, j'ai du mal à imaginer ce que pourra devenir cet avenir, justement, après, quand on pourra ne serait-ce que converser peut-être avec une personne. Et là, pour le coup, moi, je reviens à l'identité. Je reviens au thème de l'identité psychique, de l'identité de la personne, de laquelle on est en train de s'éloigner, pour le coup, parce que on va rentrer donc dans un système où c'est une intelligence artificielle qui va recréer comme ça des morceaux de vie. Et peut-être, pourquoi pas, imaginer un futur avec cette personne défunte qui va nous accompagner dans le futur. Vraiment, là, ça pose question par rapport à cette identité, moi, qui nous échappe, pour le coup, parce que cette intelligence, on ne sait pas ce qu'elle peut devenir, cette intelligence artificielle. Et ça pose la question des limites par rapport au virtuel, des limites par rapport à la réalité. Est-ce qu'on a envie de vivre entre deux mondes, vraiment. Comme je rejoins Hélène sur une chose, c'est-à-dire qu'il faut que ces techniques ou ces différentes approches maintenant soient complémentaires, mais de là à ce qu'elles prennent le pas sur nos réalités, la réalité et non pas virtuelle. Voilà, moi je mets vraiment une vigilance par rapport à ça. Attention à ces morts que l'on veut continuer à faire vivre dans notre espace, dans notre vie. Et pour le coup, qui sont-ils si on continue de les faire vivre? Et qui sont-ils si d'un seul coup ils prennent le pas sur notre vie en créant des nouvelles conversations, etc., avec des, pourquoi pas, des personnalités différentes? Et puis, il y a aussi ce problème de l'âge. Mine de rien, vous conversez toujours avec une personne qui a le même âge. Alors, peut-être que par la suite, cette personne, on pourra la faire vieillir et peut-être la faire mourir virtuellement, je ne sais pas. Mais là, ça pose quand même une question par rapport à la temporalité et la réalité de la mort, en fait. Voilà.
Merci à toutes les deux. Je vous propose de faire une petite pause dans notre conversation pour prendre des nouvelles d'une amie qui, je l'espère, est immortelle. Il s'agit bien sûr de la science qui continue à progresser malgré son grand âge.
C'est le printemps. Les oiseaux gazouillent. Il fait beau. Et pourtant, quelque part, le déluge gronde. En effet, parmi les oiseaux bleus, s'est glissé un prédateur féroce. Le réseau social Twitter est en train de vivre ce qu'on appelle une OPA, de la part d'Elon Musk. L'homme qui se dispute le titre d'être le plus riche du monde a décidé de racheter le réseau social de l'oiseau bleu. Une OPA, ou une offre publique d'acquisition, est une opération dans laquelle un acheteur, un groupe ou une entreprise cherche à prendre le contrôle d'une société cotée en bourse. En annonçant ça de façon publique, le parti voulant faire l'acquisition va alors forcer les actionnaires à vendre leur titre, de commun accord, ou en proposant souvent des valeurs supérieures au cours du marché, ou foutre le bazar au sein de l'entreprise. Ici, Twitter. C'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Le PDG de Tesla est rentré dans le capital de Twitter le 14 mars 2022 à hauteur de 9,2%, faisant de lui le plus gros actionnaire du réseau social. Alors, d'où vient cette envie soudaine de rachat? Eh bien, selon le milliardaire, le média d'Internet ne respecte pas suffisamment la liberté d'expression. Ou encore, que le réseau social n'évolue pas dans le bon sens et qu'il risque de disparaître. Mais alors, pourquoi ce rachat est si controversé? Eh bien, Elon Musk est quelqu'un d'assez fantasque. Il a, par le passé, déjà utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour faire fluctuer le marché, par exemple de son entreprise Tesla ou de la crypto-monnaie. Et le fait que l'un des plus grands réseau social appartiennent à un seul homme et peut-être pas une bonne idée. Coucou Meta. Maintenant, d'un point de vue technologique, il faut dire que ce changement de cap peut permettre l'apparition de features très plébiscitées par les utilisateurs, tels que le bouton Edit. Nous verrons donc si Twitter survit à cette offensive et évite le sort des anneaux de Saturne. En effet, les majestueux anneaux de la planète gazeuse sont en train de disparaître. Le phénomène en cause serait appelé pluie annulaire, un phénomène qui attire les particules qui composent les anneaux vers la planète et les vaporise. Saturne, Elon Musk, les deux cherchent à manger leur proie, alors profitez bien, rien n'est éternel.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, nous parlons du deuil numérique avec Hélène Bourdelois, sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et Laurence Pic, psychothérapeute clinicienne, vice-présidente de la Fédération européenne Vivre son deuil. Alors tout à l'heure, nous parlions de notre vision du deuil influencée par les nouvelles technologies, et je vous propose maintenant de s'intéresser aux changements que tout cela va induire pour les personnes endeuillées. Alors Laurence Pic, pour commencer, comment les nouvelles technologies aide-t-elle à surmonter le deuil?
Alors, les nouvelles technologies, en fait, peuvent être complémentaires à un deuil classique. Il faut savoir quand même que le deuil est un mécanisme psychique naturel hein, que met en place en fait le corps pour gérer le trauma du décès d'une personne, d'une personne proche bien sûr. Et pour le coup, dans le processus qui est naturel, qui a différentes phases, on en parlait au début, les nouvelles technologies peuvent à ce moment-là permettre un support dans une phase très particulière en fait, qui va être celle du détachement progressif de la personne par rapport au défunt. En fait, il existe dans une phase un peu particulière qui va être la recherche ou qui va être la transition en fait du passage de la présence physique à l'absence de la personne. Il existe une phase très particulière qui va être la phase de transition dans laquelle la personne va rechercher des traces et des empreintes de la personne qui est décédée, qui est disparue. Alors, ça va être évidemment très physiquement par un parfum, ça peut être évidemment par le vêtement, ça peut être par des photos. Et puis maintenant, effectivement, le côté numérique avec… pas tout à fait numérique, un message sur le téléphone, ça peut être maintenant effectivement des films, enfin différentes choses. Et le numérique peut comme ça être un support pour passer une étape, cette étape-là, mais à une condition quand même, c'est que cette étape-là ne perdure pas trop dans le temps, parce que le risque qui peut se passer, c'est que cette étape qui peut être que transitoire dans la vie réelle, j'allais dire, elle peut durer pour le coup, elle peut s'inviter à se perdurer davantage dans le monde virtuel, et là, ça peut-être générer des complexités au niveau de la guérison, en fait, et du passage de la présence physique à la présence virtuelle, intériorisée en tout cas, que peut avoir une personne lorsqu'on dit qu'elle est au terme de son deuil, c'est-à-dire qu'elle a intériorisé l'image du défunt et qu'elle vit avec, voilà, pour le coup. Voilà.
Et justement, Laurence Pic, est-ce que faire survivre le défunt sur les réseaux sociaux ne constitue pas un refus de le voir partir ? Quel est le but vraiment de cette pratique, d'après vous ?
Alors, Hélène l'évoquait tout à l'heure, il y a toujours ce fantasme d'immortalité, bien évidemment, qui est toujours là. Et on a l'impression qu'en fait, on pourrait vivre mieux avec une personne défunte, mais c'est pas le but, en fait. On se rend bien compte que nous sommes, vous l'avez évoqué, mortels, et que de faire perdurer deux mondes en même temps, ne permet peut-être pas d'aller au terme de notre vie de manière sereine. On a l'impression qu'au départ, ça va nous apporter une forme de paix, mais est-ce que c'est finalement ne pas faire tenir une forme de souffrance ? Parce qu'il faut savoir aussi que entre ce que je voudrais, c'est-à-dire que la personne soit encore à côté de moi, et le fait qu'elle n'est plus là, il se génère une souffrance, et par conséquent, le fait de la faire perdurer dans le temps, on a l'impression que ça va atténuer cette souffrance, mais pour le coup, peut-être pas. Parce que chaque matin, vous savez que vous pouvez avoir accès à certaines données, à certaines choses, et vous restez dans un monde dans lequel vous êtes complètement décalé par rapport à la réalité, j'allais dire, au quotidien, et pour le coup, générer quand même une sorte de souffrance parce que décalage par rapport à une société, à la réalité, à un groupe d'amis, à chaque élément de notre vie quotidienne, tout simplement, en fait. Voilà.
Je me permets de rebondir sur la question de savoir si les nouvelles technologies, le numérique en général, aident à surmonter son deuil. Parce que c'est une vraie question, et dans le domaine comme dans tous les autres domaines, les technologies, le numérique, recèlent de paradoxes. Donc le fait de surmonter son deuil, c'est effectivement dans certains cas, on a des endeuillés qui vont nous dire « oui, ça nous aide parce que, effectivement, on en a parlé au début, Internet, on a, à partir du moment où on a un point de connexion, on peut être connecté au bord en permanence, ça peut nous aider à nous recueillir, ça peut nous aider notamment, si on n'est pas près d'un cimetière, à avoir par exemple un espace souvenir, ça peut nous aider parce que Laurence l'a évoqué, des forums de deuil, des communautés de partage, notamment pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise et comme on dit, l'écran désinhibe. Donc, on peut échanger des choses qu'on ne serait peut-être pas capable d'échanger en face à face, ou pour des raisons géographiques, ou pour des raisons du rapport à l'espace, on n'aurait pas forcément l'opportunité de le faire. Donc, effectivement, il peut y avoir un vrai soutien de ce côté-là. Je l'ai vu, hein, notamment à l'époque, hein, donc j'ai travaillé sur un site web qui s'appelait Paradis Blanc, qui a été transformé dans la plateforme Dans nos cœurs, qui était un espace, donc une espèce de mémorial virtuel dans lequel on créait des mémoriaux et on laissait des hommages, on postait des doléances, etc. Donc ça aidait beaucoup, c'était beaucoup des femmes, hein, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de voir le rapport des questions de genre dans la question du deuil. Et beaucoup de femmes qui créaient des mémoriaux, ça les aidait énormément. Donc effectivement, on a bien sûr tout un tas de possibilités qui vont aider au processus de deuil. Et en contrepartie, on a aussi des situations qui sont extrêmement violentes, où au contraire, ça renforce la douleur, parce que, notamment, je reviens sur Facebook à l'époque, quand on ne savait pas comment fermer un compte, etc., et qu'on voyait des comptes pour des familles, des comptes persistés avec des proches amis ou même des non-proches qui mettaient des commentaires qui, pour les parents, était absolument insurmontable à voir. Il y avait une espèce de récalcitrance, une persistance de ces données qui est absolument difficile pour des endeuillés qui voudraient voir ces données disparaître. Donc, cette notion de contradiction, de paradoxe avec les technologies, elle est vraiment essentielle.
Oui, en fait, paradoxalement, tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux est en quelque sorte gravé dans le marbre. Et donc, ça crée des réactions, oui, vous le disiez, qui peuvent être blessantes et des effusions. Bon, on a parlé de toutes ces pratiques sur les réseaux sociaux liées au deuil, mais finalement, quel est le profil des personnes qui font appel aux nouvelles technologies pour faire leur deuil?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, on se rend compte qu'il y a tout type de personnes. On a l'impression que ce sont les « jeunes » entre guillemets qui peuvent s'emparer de cette question-là, mais pas du tout. Maintenant, des personnes aussi sont très agiles, notamment des seniors peuvent être très agiles sur les réseaux et s'emparer aussi de ces nouvelles possibilités. Donc, il n'y a pas de loi à ce niveau-là, il n'y a pas de loi, mais de préférence. C'est vraiment une évolution qui se fait et effectivement, cette agilité numérique, elle rentre petit à petit dans nos vies quotidiennes et donc tout type de personnes peuvent y avoir accès.
Et donc, on a parlé de tous les problèmes que posait donc, le deuil sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'un encadrement de ces pratiques pourrait pas aider à gérer un deuil difficile, Laurence Pic?
Alors, par rapport à un encadrement, je pense qu'effectivement, y a une réflexion à avoir sur les limites que peut apporter le soutien numérique pour le deuil. Comme je l'ai dit précédemment, psychiquement, est-on prêt à avoir perduré un enfant qui est décédé comme ça? Et ça, ça pose la question vraiment de notre réalité d'être humain. Hein. Je veux dire, on est vraiment là à la limite et à la frontière, comme le disait tout à l'heure Hélène, du transhumanisme. De quel côté nous allons aller? De toute façon, il y a une évolution technique et technologique qui suit son cours. Nous allons devoir nous y adapter, mais un cadre va devoir être posé, bien évidemment, parce qu'on ne va pas pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, cohabiter indéfiniment avec nos défunts. Alors, à moins de vivre dans un monde virtuel, effectivement, comme dans le métaverse ou ce qu'on nous proposera dans les décennies à venir, mais est-ce que c'est ça notre humanité? Moi, je remets vraiment là au cœur de ce débat, l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme sur Terre aujourd'hui? Et quel est le, vers quoi allons-nous? Ça, c'est une question. Et du coup, effectivement, je pense que à terme, il faudra vraiment encadrer de manière éthique et déontologique ce type d'accompagnement ou ce type de recours, parce que ça peut créer, à mon avis, des complexités ou des complexifications de la résolution d'un deuil. Et le terme d'un deuil, d'ailleurs, est-ce que c'est pas justement d'aller dans rencontrer d'autres personnes dans la vie? Est-ce que c'est pas aussi d'envisager de faire des nouvelles rencontres, de s'ouvrir à d'autres projets, encore une fois, dans la réalité, et de ne pas rester s'enfermer dans ce monde virtuel où tout devient compliqué après dans le quotidien?
Pour rebondir, je crois que c'est malheureusement c'est très très difficile de faire machine arrière sur l'emprise du virtuel, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question sur notre rapport, comme souligne Laurence, à l'humanité et puis à la nature en général. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on essaie de faire toujours avec la technologie pour soigner la nature quelque part, et qu'on ne se sert pas finalement de tout ce qu'on a à notre disposition, mais qu'on maltraite la nature, et il y a une vraie question plus profonde hein, à poser là-dessus. Et je renvoie aux travaux de cette biologiste philosophe américaine Donna Haraway, voilà, merci, voilà, qui se pose vraiment la question hein, sur, voilà, c'est des questions plus générales, finalement, des questions sur l'environnement, sur l'écologie, sur ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui, voilà, à l'humanité, en fait.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues échanger avec nous sur Radio Campus Paris. Laurence Pic, je rappelle que vous êtes psychothérapeute clinicienne, vice-présidente de la Fédération européenne Vivre son deuil, et Hélène Bourdelois, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord, co-auteure de L'impossible patrimoine numérique avec Christine Chevret-Castellani, paru chez Le Bordelot en 2018, et qui aborde la question des traces numériques et numérisé post-mortem. Et on renvoie aussi nos auditeurs à la revue Frontières que vous avez coordonnée, donc le deuxième numéro de 2021 qui s'intitule « Les technologies et la mort » qui approfondit les thématiques dont nous avons parlé ce soir. Alors restez quand même un peu avec nous parce qu'il va se passer quelque chose de bluffant ici sur Radio Campus Paris dans un instant. Vous savez, tous les mois, Simon se demande comment progresse la science. Mais comme il a plusieurs cordes à son arc, il utilise la philosophie pour répondre à cette question. Alors Simon, de qui allons-nous parler aujourd'hui ?
On va parler de Pierre Bourdieu, un sociologue français du XXe siècle. En 1975, il publie un article très intéressant qui s'appelle, attention c'est long, « La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison ». Le titre c'est puissant, et la théorie aussi. En fait, par rapport aux penseurs qu'on a pu aborder précédemment, dans cette chronique régulière de l'atome de savoir, Bourdieu fait un pas de côté pour penser au progrès de la science. Il s'intéresse à ce qu'il appelle les conditions sociales de production scientifique.
Ok, et qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien en fait, la première chose à retenir, c'est que pour Bourdieu, ce qu'on appelle la science, le domaine scientifique, ce n'est pas un domaine libre de tout intérêt, un domaine pur qui serait consacré à la seule vérité, à la discussion éclairée et raisonnée des idées. Non, la science est un champ. Et la notion bourdieusienne de champ est très intéressante. Un champ, c'est un espace social doté d'une certaine autonomie par rapport au reste de la société, mais qui est hiérarchisé et qui fonctionne toujours selon des logiques de lutte sociale ou de compétition sociale. Le champ scientifique n'échappe pas à cette règle.
Mais alors, qu'est-ce que ça implique pour les théories scientifiques ?
Ça veut dire que, d'une certaine façon, les théories, les lois scientifiques sont au moins autant le résultat de la compétition pour les honneurs que le résultat des expériences en laboratoire, des calculs mathématiques, etc. Dans le champ scientifique, il y a un système de capital, similaire au capital social, au capital économique, au capital culturel. Ce capital s'acquiert et se renforce au fil des diplômes, des articles, de la reconnaissance par les pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques. Et, comme dans d'autres champs, plus quelqu'un possède du capital, plus ce capital se reproduit. On entre alors dans ce que Bourdieu appelle une stratégie de succession, de continuité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Imaginez une théorie qui marche bien, qui voit de plus en plus d'articles à soutenir, d'expériences la confirmer. Cette théorie restera longtemps l'autorité dans le champ scientifique, non seulement pour les résultats qu'elle a apportés, mais aussi parce qu'elle a accumulé un certain capital de reconnaissance sociale. Bourdieu n'en parle pas, mais on pourrait sans doute interpréter l'attachement multicentenaire au système cosmologique d'Aristote comme un effet de cette stratégie de succession. Plutôt que de s'attirer l'opprobre de ses pairs, et aussi de la religion à l'époque, les scientifiques préféraient continuer à soutenir un tel système.
Mais alors comment expliquer que Galilée se soit révolté contre cette théorie, lui ?
Eh bien, précisément comme ça, par une révolte. Parce qu'il y a, dans le champ scientifique, des stratégies de succession, certes, mais aussi des stratégies de subversion. Celles-ci refusent l'autorité actuelle et visent, dans leur opposition, à se faire suffisamment connaître, à convaincre suffisamment pour remplacer l'autorité présente. Là encore, dit Bourdieu, c'est bien l'intérêt social qui gouverne. Quand un champ est saturé, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de gens qui ont une formation similaire, qui travaillent sur les mêmes choses, qui défendent, affinent, précisent les mêmes théories sans les remettre en question, alors la seule façon de se démarquer, de se distinguer dans ce champ, c'est justement de remettre en question de telles théories.
Alors, pour résumer, comment progresse la science ?
Eh bien, selon Bourdieu, la science progresse selon une logique qui n'est pas seulement interne. C'est ce qu'il reproche à la fois à la thèse positiviste, selon laquelle la science progresse par accumulation de connaissances, mais aussi à la thèse de Thomas Kuhn, selon laquelle la science progresse par révolution, qui remplace un ancien paradigme par un nouveau. Ces deux thèses considèrent en fait que la science va d'idée en idée, sans qu'aucun élément externe ne se mêle à ce processus. Or, pour Bourdieu, les éléments de compétition sociale, de lutte symbolique et même, très prosaïquement, de place universitaire, sont fondamentaux pour comprendre la logique des évolutions scientifiques. Et une de ses remarques, pour conclure, est intéressante. Il souligne que, plus récemment, le champ scientifique est devenu encore plus autonome. Les connaissances et compétences nécessaires pour y appartenir ont été décuplées. Il faut en passer par toute une formation. Cela a augmenté le degré d'homogénéité des scientifiques. Et cela a limité les grandes révolutions qui chamboulent tout au profit de petites révolutions plus spécialisées et plus courantes. Ainsi, aujourd'hui, même quand une révolution scientifique réussit et donne aux scientifiques révolutionnaires un capital symbolique plus important, même là, une telle révolution ne se fait pas hors du champ universitaire. Elle s'accomplit, écrit Bourdieu, selon les procédures réglées d'une carrière.
Et merci Simon, c'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous réécouter à tout moment sur radiocampusparis.org ou sur Spotify. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. On se retrouve le 19 mai pour une nouvelle émission de l'Atome de Savoir. Toute l'équipe de l'Atome de Savoir vous salue. Jade Adil, Johanna Blin, Simon Veil, Vadim Yelkin et moi-même. A bientôt sur Radio Campus Paris. En attendant, restez curieux et portez-vous bien.